Une vie, une œuvre, Alain René, 1922, Vannes, 2014, Paris. De son père pharmacien, Alain René reçoit une caméra Kodak. Il a 12 ans et tourne pour le plaisir. Après des études au lycée Saint-François-Xavier de Vannes, il part à l'âge de 17 ans pour Paris, assiste Georges Pitoëf, puis intègre l'IDEC en 1943. Ses premiers documentaires, de Van Gogh à Guernica, lui valent le prix Pulitzer en 1954. Proche de Chris Marker, il tourne avec lui Les statues meurent aussi. Le lien avec l'emprise coloniale vaut au film une interdiction immédiate. Suit Hiroshima mon amour, écrit avec Marguerite Duras, puis l'année dernière à Marienbad avec Alain Robbe-Grillet. Il épouse Florence Malraux, dont il a une fille, et c'est au Festival de Cannes que Nuit et brouillard est interdit de diffusion. L'affaire Stavisky est un succès grand public et c'est à partir des années 80 qu'il s'appuie sur un trio d'acteurs, Sabine Azéma, Pierre Arditi et André Dussolier. Il tire sa révérence avec Aimer, boire et chanter. Virginie Bloch-Lenné signe, avec Clotilde Pivin, Une vie, une œuvre, Alain René.
Il
s'est tenu tout récemment un congrès du film d'art. Au cours de ce congrès, ce sont surtout des films étrangers qui ont remporté les palmes. Et pourtant, la France et les cinéastes français, surtout les jeunes cinéastes français, sont loin de se désintéresser du film d'art. La preuve, c'est que nous avons ici dans le studio trois garçons, trois jeunes garçons, qui tous les trois sont en train de faire ou ont déjà fait des films d'art. Je vais vous les nommer, c'est monsieur William Novick, qui travaille à la Bibliothèque nationale sur les peintures des manuscrits. C'est monsieur Alain René, qui a fait un très beau Van Gogh, qui a remporté un très brillant succès à la Biennale de Venise. Et enfin monsieur Jean-François Noël, qui lui travaille sur les gisants. Alors messieurs, je vois que d'après le sujet, l'objet que vous avez choisi pour vos films, vous cherchez certainement à faire des films d'art, ce qu'on appelle des films esthétiques, puisque l'objet même de vos films l'est, et que d'autre part, vous devez certainement mettre à votre service toutes les ressources, toutes les techniques du cinéma, pour donner la plus grande beauté possible aux images que vous allez nous présenter.
Pour ma part, absolument pas. Dans Van Gogh, j'ai beaucoup plus cherché à m'occuper du monde créé par Van Gogh que de sa peinture elle-même. J'ai cherché surtout à utiliser le cinéma sur de la peinture, c'est-à-dire à voir si, par exemple, des personnages peints, des maisons peintes, des objets peints, pouvaient avoir le même rôle et la même puissance expressive que des maisons réelles, des personnages réels, des objets réels.
Mais votre film, René, n'est pas en couleur.
Non, mon film n'est pas en couleur.
Pour Van Gogh, ça semble un paradoxe.
Non, parce que j'avais le problème suivant. Si j'utilisais la couleur, je n'avais qu'une approximation très faible.
Oui.
D'autre part, je voulais faire ressortir l'architecture des toiles de Van Gogh et leur force tragique. Là, seul le noir me donnait ce résultat.
Je suis né à Torcy.
Je suis né à Paris.
Je suis né en Bretagne.
Le pays des bœufs, comme on disait dans l'Église, ce n'est pas empire.
Pas loin du Père Lachaise.
Alain René, le parti pris. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin.
Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer.
Henri Laborie.
Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante.
Antoine Debecq, est-ce que le milieu dont Alain René était issu est utile pour ceux qui travaillent sur René et qui veulent bien comprendre ses films ?
Alain René est issu d'un milieu de notabilité cultivé de Vannes, hein, c'est un jeune breton. Oui, c'est toujours utile de savoir d'où viennent les personnages. En même temps, ce qui est intéressant chez René, c'est son rapport à l'histoire plus généralement, à l'histoire dans laquelle il vit, l'histoire qu'il traverse. C'est un rapport qui est très serein, qui n'est pas un rapport de rébellion, un rapport de fascination ou un rapport qui serait de type névrotique. En tout cas, c'est l'impression que donne René, ce qui était un homme très calme, très posé, très poli. Renet monte à Paris pour être acteur. Et puis, très vite, il végète un petit peu. On est aussi pendant la guerre, hein, ça c'est quelque chose de très important. Renet est né en 1922, donc il monte à Paris vraiment au tout début de la guerre. Et il est dans ce milieu qui, travaille et en même temps végète un petit peu autour du cinéma français qui connaît à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler une sorte d'âge d'or. Et Renet, fait partie de ce petit milieu. On le voit dans les Visiteurs du soir de Carnet. Il a un rôle de figurant comme ça.
Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace.
Émilie Houssard, vous enseignez l'histoire du cinéma?
Alors j'enseigne l'histoire de l'art et du cinéma, les deux, dans une prépa aux Beaux-Arts. Et j'ai enseigné à Paris 3 le cinéma.
Et vous aimez Alain Resnais?
Oui, entre autres, mais j'aime beaucoup Alain Resnais, je le présente tous les ans à mes étudiants. Notamment Hiroshima, mon amour, mais aussi On connaît la chanson. J'aime bien faire les deux, les deux en même temps.
Émilie Houssard, Alain Resnais est née dans une famille classique, bourgeoise, provinciale. Est-ce qu'on peut dire que c'est par réaction à ce milieu qu'il est devenu celui qu'il est ou
En fait, c'est très étrange. Moi, je ne présente jamais Alain Resnais dans une biographie. Je sais qu'il est fils de pharmacien, qu'il était asthmatique, que ça a beaucoup influencé sa vie, notamment par rapport à son rapport à la mort. Voilà, puisqu'il dit dès les statues mort aussi, qu'il faisait une sorte de botanique de la mort, qu'elle soit individuelle ou universelle, et qu'on retrouve en effet dans plein de films cette question un peu comme ça métaphysique qui rôde, mais enfin, ce que j'aime regarder, surtout chez Alain Resnais, c'est plutôt l'idée du faiseur. Et donc, en fait, son histoire, j'en parle souvent très peu, à part, bien sûr, de son rapport peut-être un peu historique avec La Nouvelle Vague et Chris Marker, mais finalement, même le fait qu'il soit monteur à l'IDEC, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ses films comme des boîtes à outils. Comment on peut décomposer l'histoire, comment on peut décomposer les images et le jeu dans tous les sens du terme, J-E et J-E-U, à travers ces films.
Et donc, cette sorte de pragmatisme face à l'existence, face à la vie, face au métier à exercer, va conduire Renet, un tout jeune, hein, à 21 ans, à passer l'IDEC et à réussir l'IDEC, et une nouvelle école de cinéma. Et donc, il reçoit cette formation, qui est une formation d'abord de technicien, hein, c'est un monteur. Ça aussi, c'est quelque chose qui lui ressemble, c'est-à-dire que il y a un rapport qui est très pragmatique, très posé, très technique, hein, c'est quelqu'un qui fait bien son métier. Je dirais Renet est plus une sorte d'artisan que d'intellectuel du cinéma, si on veut suivre comme ça sa formation et ensuite son idéal cinématographique. Hein.
Ce qui est peut-être pas évident pour tout le monde, parce que Hiroshima, mon amour, ou l'année dernière Marianne Bad, passent pour des films complexes et des films d'intellectuels.
Donc Renet a un rapport très ludique au cinéma. Ce qu'il aime, c'est faire des expériences, c'est comprendre des projets plutôt de films qui lui sont généralement d'ailleurs plutôt commandés. Hein. C'est en ce sens qu'il y a une posture modeste, c'est-à-dire que Renet ne s'est jamais posé devant le cinéma avec un côté démiurge comme ça en disant voilà ce que je veux faire au cinéma, une sorte de fresque qui raconterait le monde. Non, à chaque fois Renet part de commandes qui peuvent être des commandes souvent de type historique, des films d'histoire, mais à chaque fois c'est pour mieux se poser devant de façon très pragmatique et modeste et concevoir à partir d'une situation donnée un dispositif cinématographique qui sera le mieux adapté à faire comprendre. Et donc l'intelligence de Renet, elle est dans le dispositif.
Un réalisateur qui est un ancien monteur, c'est quelqu'un qui sait
François Thomas
ne pas tourner les plans qui se révéleraient inutiles au montage. Donc ça se répercute en réalité peut-être moins dans le montage lui-même que dans l'écriture. Il n'écrivait pas les scénarios, ou plutôt, beaucoup de ces scénaristes disaient qu'il était René co-auteur de leurs scénarios. Mais donc il s'agissait pour René d'avoir un découpage technique qui permettent véritablement ensuite à son art du montage d'être mis en valeur. Et c'est quelqu'un qui avait pour fierté, c'est pas seulement une question de montage, hein, c'est vraiment aussi une question vis-à-vis du producteur, d'économie. Regardez, je m'engage sur un découpage technique, vous, monsieur le producteur, vous engagez également sur ce découpage, et à l'arrivée, je jette à la poubelle seulement trois plans, ou même un plan, ou même dans un ou deux de ses films, zéro plan. Ça serait un peu caricatural de dire que c'était sa plus grande fierté, mais il y avait quand même quelque chose de très symbolique ici.
Odile Lalande ? Je ne connais pas d'Odile Lalande, moi.
Comment, mais je vous en ai parlé au téléphone, je vous ai dit que j'appelais de sa part.
Ah, mais c'est pas moi que vous avez eu au téléphone, c'est mon patron.
Ah, vous n'êtes pas Marc Duverrier ?
Non, c'est mon patron. Il n'a pas pu venir, malheureusement, il avait une affaire importante.
Ouais. Vous vous occupez des affaires pas importantes, donc.
Voilà. Enfin, vous m'avez compris.
Oh, je vous ai tout à fait bien compris. Oui.
Alors, est-ce que j'ai pris les clés, moi ? Et surtout, est-ce que j'ai pris les bonnes clés ? Ah, voilà.
Et pour se déplacer dans un espace, il faut un système nerveux.
Et vous avez encore rien vu ?
Et ce système nerveux va agir, va permettre d'agir sur l'environnement et dans l'environnement. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Si l'action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir.
Quand j'ai vu, j'avais 15 ans, je me souviens très bien, j'ai vu Mon oncle d'Amérique, c'était une des premières fictions que je voyais de René, puisque c'était à l'époque des voilà,
Thomas Clair.
Le film sortait, quoi, et donc j'allais voir des choses, des films qui sortaient. Et donc, quand j'ai vu Mon oncle d'Amérique, je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on peut faire un bon film avec une thèse. Ça m'avait beaucoup marqué, ça. C'est-à-dire, au fond, c'est un film scientifique, avec le professeur Laborie. Bon, je me souviens plus exactement de la thèse du film, peu importe, enfin. Mais tout à coup, c'était un film à dimension didactique, qui n'était pas ennuyeux. Je me souviens très bien du générique, par exemple, en montage alterné entre les trois personnages. Et donc, il y avait tout à coup une mise en scène, là, dès le générique, qui était très belle. Et ensuite, le film était au service d'un propos du biologiste Laborie. Et j'avais été passionné par ce film. J'avais trouvé que c'était remarquablement intelligent, la façon de vulgariser la science, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est ça le cinéma aussi. Ça peut être quelqu'un qui arrive à nouer des histoires. Il y a des histoires sentimentales aussi. Et puis une sorte de thèse un peu sur le... Au fond, un peu un décalque entre les comportements des souris et des hommes. Bon, je n'ai rien à dire sur cette thèse-là. Je n'y connais rien, d'ailleurs. Mais ça m'avait vraiment passionné. Je trouve ça très beau, cette idée qu'il n'y a pas d'un côté les films scientifiques et de l'autre côté les films de fiction. Voilà, tout à coup, hop, il articule quelque chose... qui me semblait très, très neuf. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça, à mon avis.
Dans quasiment tous les longs-métrages d'Alain René, dans beaucoup de courts-métrages aussi d'ailleurs, il y a au départ une volonté expérimentale d'essayer quelque chose qui n'a jamais été fait. Par exemple, dans la chanson, le principe des chansons. Dans Mon nom d'Amérique, il s'agissait non pas de faire un film à thèse au sens traditionnel, mais d'avoir un film où la thèse et la fiction... coexisterait avec la présence de Laborie. C'était un projet sur le papier extrêmement risqué. Du reste, beaucoup des films de René, une fois qu'ils sont là, on a l'impression que oui, c'est normal. Je ne dis pas qu'on a l'impression que c'est facile, mais c'est normal. Mais le scénario de l'année dernière à Marianne Bad, si vous lisez certaines versions, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'un producteur a pu miser là-dessus ? Comment est-ce que des collaborateurs, des techniciens ont pu comprendre le propos. Évidemment, René savait très bien expliquer ce qu'il souhaitait. Et pour Mon oncle d'Amérique, c'était la même chose à dire le scénario. Il faut dire, bien entendu, que c'est un film qui, comme d'autres, a rencontré de très grandes difficultés avant de trouver un producteur.
Les raisins secs dans le taboulé, vous aimez ça, vous ?
Une grosse erreur.
Ça alourdit un peu, je trouve.
Quel imbécile, mais qu'est-ce que je fais là, franchement? Puis si je pars maintenant, je vais avoir l'air de...
Mais attendez, c'est parce que vous connaissez personne, ça va...
Mais je suis pas bien, je suis mal à l'aise.
Ouais, mais il fallait pas venir.
Mais je voulais pas venir. Puis je suis venu quand même.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas simple. Non.
C'est un laboratoire pharmaceutique qui a été l'initiateur du film.
Alain René.
Ce laboratoire pharmaceutique a demandé
1980.
À Henri Laborie de s'occuper d'un court-métrage sur le fonctionnement du cerveau et plus particulièrement de la mémoire. Henri Laborie, peut-être par boutade, dit-il, leur a répondu « ça ne m'intéresse que si un type comme René s'y intéresse ». Bon, une amie commune m'a téléphoné, m'a dit « est-ce que tu veux faire un court-métrage avec Laborie ?» Je dis un court-métrage, je n'en sais rien, mais rencontrer Laborie, évidemment, ça m'intéresse. On s'est rencontrés. Ce court-métrage n'a pas eu lieu pour différentes raisons. Il y avait déjà un collègue qui travaillait dessus depuis 3 mois. Il n'y avait pas de financement. Et puis un jour, j'ai rencontré Jean Gruaud, qui voulait me montrer des films de Griffith qu'il avait dans sa collection personnelle. Et c'est là où l'idée m'est venue. J'ai dit, j'aurais envie, Jean, de faire un film dans lequel on essaie justement de ne pas mettre la thèse ou les théories à l'intérieur de l'histoire, de ne pas les faire incarner par des personnages, de ne pas les mettre dans la bouche des personnages, et au contraire de les avoir tout à fait à part dans un film. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une construction dramatique qui serait amusante à faire, justement, au lieu de mélanger les choses, on les séparerait, mais on les rassemblerait par le métrage, par le montage. Jean Gruaud m'a répondu, bon, je trouve le projet complètement fou, mais je suis prêt à relever le défi, je me lance là-dedans. Voilà donc l'origine, en tout cas, de l'affaire.
Ainsi, une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure vivante, à se maintenir en vie. Et cette pulsion va s'exprimer dans 4 comportements de base. Un comportement de consommation, c'est le plus simple, le plus banal. Il assouvit un besoin fondamental, boire, manger, copuler. Un comportement de fuite, un comportement de lutte et un comportement d'inhibition.
J'ai découvert Alain, moi, spectateur que j'étais, au moment de mon oncle d'Amérique, en fait, qui a fait très forte impression aux adolescents que nous étions.
Pourquoi ?
Parce que c'est un film populaire à l'époque. Je veux dire par là qu'il avait bien marché. C'est vraiment un film, vraiment. Mais souvent chez Alain, hein, c'est aussi une construction incongrue. Moi, je suis assez. Je regarde les acteurs quand même pas mal, parce que ça m'intéresse. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait épaté qu'il y ait Roger Pierre, parce que c'est le gars qu'on voyait à la télé, ou dans Pete Gadget, ou au jeu de 20h. Je veux dire que le fait d'avoir sorti ce type-là, et de l'avoir ramené dans ce film-là, au milieu de Depardieu, Garcia, etc. Mais c'est surtout le côté labo là, du film, je crois, qui nous avait plu.
Vous êtes né en quelle année, Blutch ?
Je suis né en 67.
Chez René, il y a une grande générosité, c'est-à-dire justement cette association du populaire et de la recherche. C'est ça qui est beau. J'aime bien cette idée de faire un continuum entre le cinéma, qui est quand même un art populaire au départ, et la culture populaire, effectivement plus ancienne, de l'opérette ou contemporaine, de la bande dessinée. Et il n'y a pas cette idée que le cinéma serait un art supérieur, ou voilà, qui est une tendance parfois chez certains écrivains. Pour moi, René, c'est cette définition, encore une fois, de l'artiste qui est capable d'associer dans son univers le haut et le bas, c'est-à-dire la dimension sentimentale, amoureuse, qui est forte aussi dans son cinéma, me semble-t-il, et une certaine recherche, une certaine gravité humaine aussi. Encore une fois, si on voit cette double face documentaire et fictionnelle, il y a là une manière de prendre en charge, avec légèreté toujours, enfin avec élégance, disons, l'humanité dans ce qu'elle a de plus épouvantable, nuit et brouillard, et dans ce qu'elle a de plus réjouissant, on connaît la chanson. C'est quand même stupéfiant de voir que le même homme a pu faire ces deux films. Enfin, moi, je trouve ça miraculeux, quoi.
Alain René.
C'est très simple. J'ai reçu un soir un coup de téléphone du producteur Anatole Dauman.
1994.
Qui me demandait de faire un film sur les camps de concentration. Et bien entendu, j'ai refusé parce que je trouvais qu'il fallait que ce soit fait par quelqu'un qui avait vécu la déportation, Et puis, poussé certainement par un de ses amis et un de mes amis, Frédéric de Tovarniki, il est revenu à la charge et j'ai accepté de le rencontrer pour lui exposer les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas faire ce film. Et il n'a pas eu l'air convaincu, en tout cas, par les arguments que je lui ai apportés. C'était un film qui était une commande du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dirigé par M. Henri Michel et Mme Olga Wormser. Et j'ai été voir l'écrivain Jean Cayrol, que je connaissais comme ami de Chris Marker, et je lui ai parlé de ce problème. Et je lui ai dit, si vous acceptiez, vous qui avez connu la déportation, si vous acceptiez d'écrire le commentaire, peut-être que je pourrais repenser au problème. Bon. Alors, tout le monde a été d'accord. Et à partir de ce moment-là, ben, on s'est lancé dans l'entreprise. On était très conscient que ce ne serait pas un film complet, ni un film encyclopédique, mais au fond, plutôt un film lyrique plutôt qu'autre chose, puisque on ne peut pas en 3 mois, il aurait fallu 10 ans pour arriver à avoir tous les contacts nécessaires, et surtout, il aurait fallu avoir des moyens financiers que Anatole Dauman, Samy Alfon et Lipschitz, c'étaient les 3 associés de Argos Film, ne possédaient absolument pas, et ça on m'a pas caché qu'il fallait donc travailler dans des délais et avec un budget extrêmement réduit. Donc il n'était pas question de faire des grands voyages à l'étranger ou des choses comme ça. Bon.
Et quelle est la patte de René dans ces documentaires qui sont des œuvres collectives, puisque Nuit et brouillard est accompagné d'un commentaire écrit par Jean Cayrol, puisque Les statues meurent aussi est un film qu'il a fait avec Chris Marker?
Oui, cet assemblage, cette collaboration, c'est ça qui marque notamment dans ces documentaires. Moi, j'ai pas vu Nuit et brouillard depuis très longtemps, mais je me souviens de cette voix, par exemple, de cette voix off, qui existe aussi dans Les statues meurent aussi. Avec cette voix, bon, qui est un peu marquée par l'époque, c'est-à-dire une voix assez rapide, très littéraire, avec une certaine emphase, on pourrait dire, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bon. Et ça, c'était quelque chose. Il y avait à la fois, évidemment, une puissance dans Nuit et brouillard des images et du film, et en même temps, il y avait ce très beau texte et cette voix de Michel Bouquet qui sont très marquantes. Et ça, j'aime beaucoup, au fond, cette double dimension de l'image et du texte. Cette dimension que j'appelle littéraire, c'est-à-dire, au fond, le cinéma n'est pas que de l'image pour René. Je crois que c'est ça qui m'a touché en tant qu'écrivain, d'ailleurs. Je pourrais dire qu'il y a une dimension littéraire dans son cinéma parce qu'il y a cette voix off qui, notamment, est assez impressionnante. Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment la voix de la voix off qui organise la parole et non pas les personnages que l'on voit sur l'écran.
J'étais impressionné par le respect qu'il avait de l'auteur, dont il prenait l'œuvre pour en faire un film. Il était...
Bruno Podalides.
Sur Eggborn, il ne changeait pas une virgule, même s'il y avait une adaptation, une traduction en français. Et je ressens encore ça. On peut analyser, au contraire, le nombre de points communs entre la constance chez René et Des nuits et brouillards, en fait. J'étais étonné en le revoyant il n'y a pas si longtemps qu'il y avait de l'humour dans Nuit et brouillard. Je n'avais pas du tout, évidemment, décelé au début, vu la force, la puissance du sujet évoqué. Mais par exemple, il compare les architectures des miradors de manière très très ironique. Et il y avait déjà cette espèce de... qui était une moquerie des nazis assez puissante, enfin, comme Chaplin avait pu faire pour Le dictateur, ou quand Mouchkine le fait là pour Une chambre en Inde. Enfin, il faut se moquer des méchants, comme elle dit naïvement, mais René avait déjà cette ironie, en fait.
Alain René souhaitait que le jeu des acteurs ne soit pas naturel. Il souhaitait que l'on sente que c'était du jeu, du spectacle. Est-ce que ça relève du formalisme ?
Certainement, certainement. C'est aussi un parti pris très fort, parce que ça va à l'encontre du naturel, de la spontanéité. Le jeu d'acteur, ça n'a pas d'intérêt si c'est juste une reproduction de ce qu'on voit tous les jours. Or, c'est ça apparaît dans le cinéma dominant, dans le cinéma finalement, voilà, le cinéma naturaliste, qu'on ouvre la télé, bon, on voit une série, c'est très naturaliste. Dire aux acteurs de ne pas être expressifs, par exemple, de ne pas être spontanés, aller complètement à l'encontre des automatismes du quotidien, c'est là déjà un travail de mise en scène, donc, bon, qui n'est pas évidemment le seul. Il y a toute une tradition aussi en France, chez Bresson, ou chez Melville, par exemple, ou chez Duras, de faire que le jeu d'acteur ait une dimension d'artifice. Et c'est ça qui est évidemment très, très beau.
J'abandonne, je m'en vais. Non, non, j'abandonne, je m'en vais.
Bonsoir, voici notre émission consacrée au cinéma. Notre invité sera aujourd'hui François Truffaut.
Je voudrais demander à François Truffaut ce qu'il pense d'un film qui est en train d'être, je crois, le film le plus débattu du festival, c'est-à-dire Hiroshima, mon amour, d'Alain René. François Truffaut.
1959.
Je crois qu'Hiroshima, mon amour, est le film français qui va le plus influencer non pas toute la production, mais une partie de la production française dans les années à venir. C'est-à-dire qu'après avoir vu ce film, on reste, non pas sans voix, mais enfin, on reste sous un choc nerveux très grand et qu'il est très difficile de réenvisager d'autres films avec les procédés de narration déjà utilisés. C'est un film prodigieux. On savait avant, on pressentait, ou enfin on savait par ses courts-métrages qu'Alain René serait le chef de file du cinéma français. Et maintenant, c'est une certitude après avoir vu Hiroshima, qui est un film à la fois prodigieusement classique par la maîtrise des acteurs, par exemple, puisque la direction d'acteur peut faire penser au maître du genre, c'est-à-dire à Cukor ou à Kazan, et en même temps extraordinairement neuf, puisque cette façon de jouer, tout en étant classique, est tout à fait neuf. C'est-à-dire la saccade, par exemple, des paroles est une chose complètement inédite.
Antoine Debecq, est-ce que Alain René a eu une relation amicale avec François Truffaut? Comment ça se passait avec Godard ou avec Chabrol? Est-ce que ça se passait d'ailleurs?
Alors, les relations de René avec ces jeunes gens étaient diverses. Il avait une relation assez forte avec Truffaut. Truffaut avait dit un jour que René serait sans doute le seul grand cinéaste de gauche qu'on puisse trouver, parce que bon, Truffaut, de façon très provocatrice, avait dit le cinéma c'est un art de droite, c'est un art du style, c'est un art de la forme, c'est un art désengagé. Le seul contre-exemple qu'on peut trouver, c'est René qui sera sans doute le grand cinéaste de la gauche. Voilà. Bon, Truffaut aussi était lié à René par son amitié aussi avec des actrices, hein, comme Jeanne Moreau, comme Delphine Seyrig. Après, René n'était pas quelqu'un qui recherchait particulièrement l'amitié de Godard, de Romère ou de Chabrol. Je pense que il y avait avec eux une forme de, je dirais presque de complicité dans l'idée qu'il fallait changer le système et fallait changer le cinéma français. Donc voilà, une sorte d'alliance objective. Je pense que Godard, notamment, est quelqu'un qui était quand même assez, entre guillemets, bluffé par René. Hein. Il aurait aimé pouvoir atteindre comme ça, avec l'intransigeance de René, de faire le cinéma qu'il voulait faire, atteindre le public que René a eu. Parce qu'il faut pas oublier, il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est plus de 2 millions de personnes qui vont voir Hiroshima, mon amour. 3 fois plus que À bout de souffle, qui est déjà un énorme succès pour ce type de film.
Au fond, votre réaction est la réaction de quelqu'un qui accepte plus volontiers
1966.
Que ces jeunes loups de la nouvelle vague individualiste, anarchiste et au fond assez peu content de la société. Vous n'êtes pas, je ne dis pas que vous êtes content de la société, mais je veux dire vous êtes plus sensible à un certain nombre de rouages dans lesquels vous êtes pris.
En tout cas, c'est vrai que je suis sensible en fin de compte, et de
temps, je dois être très, très individualiste, mais je suis très sensible au travail d'équipe, quoi. Je veux dire, je vois très bien que quand je suis obligé, par exemple, de faire des prises de vue tout seul, disons, ça peut arriver comme ça, ou pratiquement, quoi, où on a que, je sais pas, des raccords, des objets, des choses comme ça, ben, je m'ennuie horriblement, ça me paraît un pince-somme, j'ai envie tout de suite de m'en aller, alors que quand je suis sur un plateau avec les comédiens et les techniciens, ben, là, je trouve que ça vaut la peine, quoi. Je crois que c'est d'ailleurs le moment que je préfère dans un film, c'est ce moment du tournage, comme ça, quand on est tous ensemble et qu'on fait quelque chose ensemble, il y a quelque chose là du... Je sais pas, on a l'impression d'une espèce de machine qui tourne comme ça, et c'est impressionnant et assez bouleversant, quoi. Je crois que c'est ça que j'aime dans le cinéma.
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
Quatre fois au musée.
Quel musée à Hiroshima?
J'ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies.
Connaître le cinéma, par Philippe Hainaut et Jean Mitry, avec le concours de Nicole Guesbeller.
1967.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quelles conditions vous avez travaillé avec Alain Resnais pour Hiroshima ?
Ben René était à 9 semaines du tournage, il n'avait pas de script. Il avait un script qu'il n'aimait pas.
Vous vous connaissiez déjà ?
Non, absolument pas. Je ne l'avais jamais rencontré.
Marguerite Duras.
Et en 7 semaines, je lui ai fait le script, le scénario et les dialogues d'Hiroshima. C'est-à-dire qu'on se voyait tous les soirs. Je travaillais dans la journée, il venait. Je lui lisais ce que j'avais fait. Et ou bien il était d'accord, ou bien il ne voyait pas, comme il disait, ce que j'avais voulu faire. Alors je le remaniais de telle sorte qu'il arrivait à le voir, qu'il est toujours arrivé à le voir. Et c'est comme ça qu'au bout de 7 semaines, il a pu tourner, dans les délais. Je suis restée 15 jours en gestation, si on peut dire, à chercher un sujet, et j'ai vu que le sujet n'existait pas, que c'était, l'important était l'inexistence du sujet. C'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle on était de montrer Hiroshima. C'est le fameux « tu n'as rien vu ». Donc je suis partie dans une attitude pessimiste et négative, qui s'accordait très bien au thème, enfin j'imagine, puisque ça a marché.
Est-ce que justement vous n'avez pas été un peu surprise par le succès et le retentissement de ce film ?
Complètement, bien sûr. René et moi, on s'est dit, on va sortir dans un seul cinéma et ce sera gagné.
Dans tous les premiers films d'Alain René, et Hiroshima étant son premier long métrage, on va avoir à chaque fois des réactions extrêmement forte de la part de la critique et de la part des spectateurs. Hiroshima est un film qui a été beaucoup vu. C'est un film qui a été plébiscité par les spectateurs. Alors moi, je me souviens que ma grand-mère me disait « Oh là là, mais c'est chiant ce film, je comprends pas pourquoi les gens sont allés le voir ». À la fois, c'était quelque chose qui était extrêmement critiqué comme, en effet, film chiant, puisque ça a été écrit un film où il ne se passe rien, où il n'y a rien à voir. Et en même temps, film que, par exemple, Godard, tout de suite, hein, Godard qui n'était pas dans le même groupe qu'Alain René, hein, n'était pas avec Chris Marker ou Agnès Varda, mais plutôt donc les jeunes Turcs, Truffaut, la Nouvelle Vague, comme on l'a appelé, Godard qui regarde Hiroshima comme le film qu'il aurait dû faire. Donc on est dans une opposition en fait constante entre à la fois un film qui tout de suite est reconnu par la critique et par une forme d'intelligentsia, enfin des intellectuels qui vont se saisir de ce film comme un morceau d'histoire intellectuelle. Enfin, voilà, c'est... Et en même temps, un public qui va suivre, parce qu'il y avait sûrement besoin de voir Hiroshima.
Ici, le Théâtre 104, maison de l'ORTF à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Pollack présentent leur magazine public, réalisé avec le concours de Annie Cœur de Vais et de Christian Ivaldi au piano et au clavecin, Le Masque et la Plume.
Je crois qu'on va tout de suite faire entrer oui. Les fauves, c'est-à-dire les critiques, qui n'attendent que ça d'ailleurs.
Allez, France Roche, Claude Mauriac, Jacques-Daniel Valcroze, Georges Charansol.
Eh bien, à propos d'Hiroshima, mon amour, il y a une chose qui m'étonne beaucoup. Les critiques qui aiment beaucoup ce film disent, et c'est leur argument absolument péremptoire, semble-t-il, ce film, on l'accepte ou on le refuse en bloc. Et je voudrais vraiment leur dire pourquoi. D'abord, quelle est l'œuvre qu'on accepte et qu'on refuse en bloc? Deuxièmement, est-ce que justement le cinéma n'est pas une forme d'art dont on peut dissocier les éléments, beaucoup plus aisément que dans d'autres cas? Évidemment, on ne dit pas, quand on lit un livre qui vous plaît beaucoup, il serait beaucoup mieux si le chapitre 7 était meilleur, non. Mais dans un film, je trouve que, et surtout dans un film comme celui de René, la partie image et la partie texte sont à la fois liées, mais quand même parallèles, et que ceux qui disent, moi, j'aime beaucoup la partie image, mais j'aime moins une partie du texte, ont parfaitement le droit de le dire.
Ça va ? Très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, je vais pas tarder, moi.
La surdouée de la famille.
Ah non, Odile, arrête.
Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Oh, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non ? Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Je te l'ai dit, non ?
Ah bon ? Mais une thèse sur quoi ?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça ? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi ?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Bah qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas dit ça ?
Non.
Au lac de ?
Paladru !
Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors ?
Pour faire parler les cons.
Pas Camille.
Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein.
C'est bien ce que j'avais compris.
Et puis, à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons.
Je fais ce que je peux.
Le rapport à la littérature, hein, on va séparer René de Les gens de la Nouvelle Vague, c'est que, en gros, Les gens de la Nouvelle Vague, bon, ils avaient un culte pour Balzac, par exemple, enfin, que ce soit Truffaut ou Romère ou Rivette, ils puisaient finalement dans une littérature du passé qu'ils allaient moderniser d'une certaine façon par le cinéma, alors qu'effectivement René va partir d'une littérature contemporaine, hein, Grieg ou Duras, un des écrivains vivants, si on peut dire. Ce n'est pas la même chose, du coup, parce qu'à ce moment-là, il y a probablement une dimension de collaboration avec l'écrivain, alors que dans la Nouvelle Vague, on va utiliser différemment. Enfin, je ne sais pas exactement comment, mais... Et bon, voilà, moi, j'apprécie cette dimension de recherche de l'image et du texte, et des rapports entre l'image et le texte. Je trouve que c'est quand même une des forces de René.
Et cette fois-ci, vous avez pris comme écrivain, puisque vous aimez particulièrement transposer à l'écran des œuvres d'écrivains, que ce soit de Marguerite Duras, de Rob Grillet, de Kerol, cette fois-ci, il s'agit de Jacques Stenberg.
Je ne sais pas très bien si c'est juste, ça, comme terme de dire, de transposer à l'écran des œuvres d'écrivains, parce que ça supposerait qu'elles soient déjà écrites. Or, en effet, je crois que ça me serait très difficile d'adapter un livre qui existerait déjà. C'est très important pour moi de voir le scénario net se développer, de pouvoir, avec les comédiens, corriger à chaud, si on peut dire, enfin, de manière à ce qu'on arrive à une œuvre la plus vivante possible.
Chacun de vos films est un travail d'équipe, c'est ce que vous voulez dire aussi ?
Je veux dire qu'en effet, l'opérateur ou... Enfin, il faut que, si on fait du cinéma, il faut accepter, en effet, que ce soit une collaboration et que l'opérateur, le décorateur, les acteurs surtout, ont une importance prépondérante dans le résultat final. Ce sont des réflexions qui font toujours un peu boy scout, mais je crois qu'il ne faut pas les perdre de vue parce que c'est ça qui est la loi du spectacle.
Ah, c'est beau. Un génie.
Bien, vraiment. Bien.
Oh, bravo, bravo, bravo.
Mes amis, il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais si vous le voulez bien, mettons un peu d'ordre dans nos idées.
Vous pouvez définir, Thomas Clair, le formalisme ?
Le formalisme, c'est le fait tout simplement de penser que au cinéma, ce qui compte, c'est pas tellement l'histoire qu'on raconte, c'est la façon de mettre en scène, c'est le plan, par exemple. C'est de penser, il me semble, le cinéma en termes de plan. Comme en littérature, ça va être penser la phrase, ou penser, disons, le style, penser quelque chose qui va orienter la perception, voilà. C'est le fait de donner une importance à la perception par le matériau lui-même.
Oui, bah, évidemment, chaque fois qu'on fait un film, et ça, je ne crois pas que
ça m'est réservé. Enfin, on a envie d'essayer un truc pour voir si ça va marcher. Bon, alors là...
1994.
On peut dire que... Oui, on va encore revenir à l'enfance. Mais enfin, que c'est le jeu, en effet. J'avais un mécano Chemex, c'est-à-dire un mécano chimique. Ça ne se fabrique plus maintenant, dans lequel il y avait des tas de produits, de l'hydrogène, de l'oxygène, de... Enfin bon. Et avec des tubes colorés. Et donc, on pouvait faire des expériences de l'ordre chimique. Et j'avais toujours envie de mélanger telle poudre avec telle autre pour voir, avec la crainte d'ailleurs que ça explose. Enfin, ça ne s'est pas arrivé. Et peut-être que j'ai gardé ce goût-là, quoi. De l'autre, bah, il y a simplement mon goût de spectateur, quoi. Je vais au cinéma et c'est vrai que j'aime bien avoir des surprises. Bon, c'est... Alors de là, essayer de les favoriser au maximum quand un film se prépare, ben, il n'y a qu'un pas, et ben, je le franchis le plus souvent possible. Parce que, bon, ben alors là, si on reste dans les métaphores, il y a une espèce d'attirance du précipice. Il y a une chanson, l'attrait du danger, en effet. Oui, c'est un stimulant pour tourner, quoi. Enfin, de toute manière, je suis un formaliste et... Faire un film dans lequel il n'y aurait pas un, soit pendant une séquence au moins en tout cas, mais soit pendant tout le film, un parti pris de règles du jeu, je crois que ça me serait très difficile. En tout cas, quand j'y ai renoncé, ou en tout cas, selon les conseils d'Amier, en me disant « mais non, tu devrais faire des films justement plus détendus, sans... » Eh bien, ça ne m'a pas réussi du tout et les spectateurs ne sont pas venus. Alors, je crois que là aussi, il faut en tirer une leçon et ne pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà.
Et finalement, nous devons nous rendre compte que ce qui pénètre dans notre système nerveux depuis la naissance et peut-être avant, in utero, les stimulus qui ont pénétré dans notre système nerveux nous viennent essentiellement des autres et que nous ne sommes que les autres. Quand nous mourons, c'est les autres que nous avons intériorisés dans notre système nerveux, qui nous ont construit, qui ont construit notre cerveau, qui l'ont rempli, qui vont mourir.
Moi, j'ai, par exemple, devant mon oncle d'Amérique, je suis extrêmement émue à chaque fois que je vois ce film. C'est vraiment l'idée de la métaphysique. Et ce qui est fabuleux, c'est que métaphysique, c'est-à-dire des questions qui nous dépassent et qui nous traversent, en fait, avec des choses extrêmement simples. Oui, c'est juste l'histoire d'un monsieur qui prend une maîtresse, ou c'est juste l'histoire d'un homme, de fils de paysan, qui veut réussir et qui essaye de gravir les échelons. Alain René regarde ça, à ce moment-là, à travers des situations qui nous confrontent à des états d'âme, à des états d'esprit proprement humains. Et ce, par l'intermédiaire d'expériences neurologiques sur des rats.
Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on sait, Émilie Oussa, si Alain René était d'accord avec les idées d'Henri Laborie ? C'est-à-dire que tout n'est affaire que de chimie ou de, voilà. Est-ce qu'il était aussi cognitiviste qu'Henri Laborie ?
Je ne pourrais pas répondre pour Alain René. Hein. Je sais simplement qu'il s'est déclaré agnostique et qu'il s'est déclaré même athée. Hein. Après, fortement influencé par la métaphysique. Donc, c'est de toute façon contradictoire. Et c'est ça aussi qui est assez... intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas un personnage tranché, et c'est la force du cinéma d'Alain René. Donc on a quelque chose de... qui ne peut pas être affirmé, je pense. C'est-à-dire que moi, ce qui me touche dans ce film, c'est que il y a une révolte de l'humain, en fait.
Si vous voulez, chez René, ce qui m'a frappé à travailler avec lui, entre la comparaison entre le scénario et le film, c'est quand même la puissance du metteur en scène. Proprement dite, c'est-à-dire comment filmer, le découpage, l'usage de la machinerie, des grues, des travelling. On peut regarder un découpage de René, les parties pris très puissantes. Voilà, il levait une armée à la René. Enfin, il était très très bien entouré. Il a choisi des collaborateurs tout au long de sa vie et il avançait à la vitesse d'un paquebot. J'avais l'impression quand il préparait un film, il c'est aussi comme un bateau qui est très puissant, très très lent, comme ça, qu'on voit pas pratiquement longer la digue, mais qui en fait a une puissance qu'on ne peut pas du tout arrêter.
L'affiche des Herbes Folles a été le travail le plus long et peut-être paradoxalement le plus facile parce qu'on l'a fait sur la longueur. C'est un dessin que j'ai fait, ça a duré des semaines et des semaines, si vous voulez. J'avais mon chevalet dans ma chambre à coucher et Alain était venu à la maison, tout ça, et on en discutait. Et le dessin avançait, il avançait comme ça au fur et à mesure. Alors comme je travaille au pastel, je peux revenir, si vous voulez, je peux effacer des strates de mon dessin grâce à l'essence de térébenthine ou au white spirit. C'est-à-dire que sur l'affiche d'herbes folles, des herbes folles qui se passent dans une prairie, Alain, à un moment donné, il m'a dit « Ah, ben, on n'a qu'à faire pousser l'herbe ». Donc j'avais fait des herbes. Mes personnages avaient l'herbe jusqu'aux genoux. Et puis Alain s'est ravisé. Il a dit « Oh, ben non, on va repasser un coup de tondeuse ». J'ai retaillé l'herbe. Et à un moment, Alain, il dit « Ah, si, c'est une scène de jour ». Il me dit « Si, ça se passait la nuit ». Donc le dessin est devenu nocturne à un moment donné, jusqu'à ce qu'il se ravise. Donc, et après, j'ai repassé un coup et on est revenu au jour. C'est-à-dire que c'est un dessin qui s'est fait, qui s'est élaboré comme ça. Et c'était vraiment très, très agréable à faire. Mais vraiment, hein, je me sentais dirigé, si vous voulez, un peu comme un comédien même. Donc il y avait une espèce de confort d'être dirigé. Et puis, je me souviens qu'on avait le temps.
Aujourd'hui, avec le peu de recul que j'ai encore pour évoquer Alain René, me viendrait une image de velours rouge, c'est-à-dire quelque chose de très doux, mais qui renvoie aussi au spectacle, à l'amour profond du spectacle, sous toutes ses formes. Et du coup, il crée peu de division entre le théâtre et le cinéma, par exemple. Et le velours rouge, et puis c'est aussi le retranchement dans ses goûts premiers. Je crois qu'il a cultivé toute sa vie... ce qu'il aimait, il avait une grande capacité d'admiration et il est allé au-devant de beaucoup d'artistes mus par son admiration. Et l'autre image que j'ai de lui, c'est cette discussion tranquille que nous avons eue, qui durait des heures, d'une vraie conversation apaisée. C'est quelqu'un qui prenait son temps, c'est-à-dire qui ne voulait pas employer un mot à la place d'un autre et qui parfois il s'arrêtait net, il y avait une sorte d'arrêt sur image et il cherchait le bon mot, il le trouvait.
Comment vous vous souvenez de la première rencontre, Lutch?
Moi, j'ai eu des bonnes fées qui m'ont ouvert les portes de chez Alain. Et ces bonnes fées, c'était les producteurs, Julie Salvador, Jean-Louis Livy, Christophe Geoffroy. Je crois que c'est important de les citer, parce que c'est des gens qui ont été aussi très, très, qui ont été cruciaux, on peut dire ça, dans la dernière période d'Alain, qui l'ont accompagné et qui l'ont aidé à réaliser ses films. Je suis arrivé chez Alain un beau jour, je ne sais plus quand c'était. Et je me souviens qu'il y avait une espèce de mise en scène, parce que j'étais arrivé dans le salon, il était assis à contre-jour sur son fauteuil. Il était assis à contre-jour, derrière lui il y avait la fenêtre avec le rideau. Et ses traits étaient flous, il était dans une espèce de pénombre. Et moi j'étais assis sur le canapé en face de lui, donc j'imagine que je devais être en pleine lumière moi. Mais j'étais assez détendu, en fait. Pourquoi ? Parce que je le connaissais bien. Et on a parlé, je ne sais plus de ce dont on a parlé, on a parlé d'acteurs, peut-être de Charles Boyer, je crois, de Guitry, déjà. On a parlé beaucoup de BD, hein, par la suite, hein, quand même, hein, parce que c'est un fondu de BD. Mais la première fois, si vous voulez, moi j'ai une mémoire visuelle en fait. C'est-à-dire que je vois exactement comme il était. Je me souviens de la lumière à peu près diffuse. Je me souviens même de mon état émotionnel, mais ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé, je ne pourrais plus le dire. Après, j'ai réalisé que j'avais passé, ou on m'a dit que j'avais passé une espèce d'examen, quoi.
Grâce au langage, les hommes ont pu transmettre de génération en génération toute l'expérience qui s'est faite au cours des millénaires du monde. Il ne peut plus maintenant, et depuis déjà longtemps, assurer à lui seul sa survie. Il a besoin des autres pour vivre. Il ne sait pas tout faire. Il n'est pas polytechnicien.
Émilie Houssin, malheureusement, nous n'avons pas de témoignages des acteurs fétiches d'Alain René dans ce documentaire. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de Sabine Azéma, André Dussolier, Lambert Wilson, Pierre Arditi? En quoi ce n'est pas étonnant qu'ils les aient aimés, eux?
Alors, pour moi, Sabine Azéma, c'est quelqu'un qui... C'est bizarre à dire. Qui sait sauter, qui sait passer d'un état à un autre et qui, comme ça, a cette légèreté de ce passage. Elle est fébrile, Sabine Azéma. Dans tous les films d'Alain René, elle a cette tension jusqu'au bout des doigts. On sent que tout est tendu, quoi. Et face à elle, on a ce côté lent et sûr de lui de Pierre Arditi qui est pourtant dans le doute permanent et qui, dans ses personnages. Hein. Et Dussolier, je dirais, à un pont entre deux rives, c'est-à-dire qu'il va comme ça passer de cette
oscillation.
Ouais, d'oscillation, mais aussi de doute en fait, permanent, de grande passion. Enfin, Dussolier, c'est le passionné chez Alain René. En fait.
Qu'est-ce que les acteurs de la troupe de René ont pour vous, Bruno Podalydès, en commun?
Je crois qu'ils ont plusieurs choses en commun. Ils se dégagent toujours le plaisir du jeu qui n'est pas le plaisir du naturalisme ou de se contenter de la justesse. On a le droit de pousser plus loin son pion. Et le plaisir de la composition non masquée, le on aurait dit que quand on est enfant, on aurait dit que t'es un cow-boy. La joie du déguisement. J'ai employé souvent le mot jubilatoire parce qu'il y a l'idée de jouissance chez René. Souvent, on dit que c'est un auteur froid ou intellectuel. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a des très très belles scènes érotiques chez René. Quand on dit de troupe, c'est-à-dire je dispose de ces comédiens-là, comme faisait Molière, et il faut que je retrouve un rôle pour faire vivre ma petite troupe. Alors que René, je crois, se jouait la comédie contraire. C'est-à-dire il allait chercher... sans doute secrètement, intérieurement, d'autres comédiens, en allant beaucoup au théâtre, en voulant toujours rencontrer de nouveaux comédiens. Et finalement, il revenait à Sabine Azéma. Mais il avait cherché. Et je crois que c'était sincère de sa part. Il n'avait pas envie d'automatisme comme ça. Et que finalement, il était très content de retrouver à chaque fois Pierre Arditi, André Dussolier, mais qui avait toujours cette volonté d'ouvrir. Et dans tous ces films, il y a à chaque fois des nouveaux venus aussi. Ouais.
Alain René, lorsqu'on vous rencontre, on a envie de vous poser des tas de questions, et pas forcément sur le cinéma, mais peut-être tout simplement des questions sur la création. Et on aimerait savoir ce que représente pour vous cette création dans votre propre vie. Est-ce que ce sont de simples souvenirs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui jalonne votre vie et qui lui donne sa direction?
1966.
J'ai envie de répondre de toute façon par une manière peut-être très terre-à-terre, mais enfin, c'est surtout pour moi un moyen d'existence, quoi. Ce qui m'intéresserait beaucoup serait de savoir si j'étais rentier, est-ce que je ferais du cinéma? Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui feraient du cinéma s'ils étaient rentiers? Parce que c'est une chose dont on discutait hier avec justement deux ou trois amis, dont il y avait deux critiques, et on parlait justement de la création, de l'art pur et des choses de ce genre. Et toujours le fameux « Ah, si les cinéastes étaient libres » et tout ça, ce qui me paraît d'ailleurs justement un faux problème. Mais on s'est bien aperçu que ça n'existe pratiquement pas. Je veux dire, il y a des peintres du dimanche, mais il n'y a pas de cinéastes du dimanche. Vous allez me dire qu'il y a le cinéaste amateur, mais le cinéaste amateur, dès qu'il commence à avoir des succès dans son club ou des choses comme ça, devient professionnel. Et donc, ça devient forcément pour lui un moyen d'existence. Alors donc, j'ai envie de vous dire, vous me posez la question, qu'est-ce que représente le cinéma pour vous? Eh bien, je vous réponds, c'est d'abord un moyen de gagner ma vie. Bon, alors ensuite... Pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel type de film? Là, il doit y avoir certainement des choses inconscientes qui doivent jouer, mais sur lesquelles, puisque justement j'ai employé le mot inconscient, ben je suis incapable de répondre. Bien sûr qu'il doit y avoir des thèmes qui doivent qu'on se sent plus ou moins capable de rendre, mais d'où ça part? Alors ça, c'est le grand mystère.
Il y avait un côté caverne chez lui, je trouve. Côté caverne, chambre d'enfant. Des papiers, des cassettes vidéo, des DVD, des bouquins par terre, des piles de bouquins. Chez Alain, il y avait un côté... les pièces où je pénétrais, il y avait un côté « je suis au travail ». Je suis au travail, c'est-à-dire maintenant. Il n'y avait pas un côté caverne de souvenirs, si vous voulez, avec voilà, des photos de moi avec machin, des photos de choses. Il n'y avait pas cette propre historicité de soi-même, si vous voulez, comme la plupart des gens qui accumulent des souvenirs. Il n'y avait pas ça. Il y avait ce côté vraiment, je suis là maintenant, dans les endroits où je suis allé. Hein. C'est-à-dire que je travaille aujourd'hui.
L'inconscient constitue un instrument redoutable, non pas tellement par son contenu refoulé parce que trop douloureux à exprimer, car il serait puni par la socioculture, mais par tout ce qui est au contraire autorisé et quelquefois même récompensé par cette socioculture et qui a été placé dans son cerveau depuis sa naissance. Donc il n'a pas conscience que c'est là et pourtant c'est ce qui guide ses actes. C'est cet inconscient-là qui n'est pas l'inconscient freudien qui est le plus dangereux. En effet, ce qu'on appelle la personnalité d'un homme, d'un individu, se bâtit sur un bric-à-brac.
T'es pas contente? Ils vont publier ta thèse, c'est quand même quelque chose...
Tout le monde s'en fout, Odile, de Chevalier Paysan de l'an 1000. L'acte de Paladru, je t'en parle même pas. J'ai travaillé 7 ans sur un truc qui doit intéresser 15 personnes maximum.
Ah bah ça me déçoit. Je suis désolée, mais ça me déçoit. J'aurais beaucoup de peine si tu t'arrêtais, en tout cas. Et papa aussi. Excuse-moi, mais franchement, si je peux te dire les choses, je trouve que tu t'écoutes beaucoup en ce moment. Faut pas te laisser aller comme ça, enfin. Tu sais, hein, ça dépend énormément de toi. Si tu décides de réagir, si tu te dis, bon, maintenant ça va, je suis en pleine santé, je suis heureux, je regarde toutes les choses de façon positive. Si tu te dis ça, mais tu verras que ça ira tout de suite beaucoup mieux. Tu comprends? Faut pas se laisser abattre, hein. Ça m'étonne de toi, d'ailleurs. T'es tellement actif, t'es tellement volontaire, toi, d'habitude. Tu sais, il faut te dire qu'il y a des gens qui ont 1000 fois plus de raisons d'être malheureux.
Et bah bravo, bravo! Ils sont très forts, très courageux, moi non. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse.
Résiste!
Moi, je me souviens d'un homme qui aimait bien rire quand même.
C'était Alain Resnais, Le Parti pris, une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Antoine Debecq, historien, Émilie Houssa, historienne du cinéma, Thomas Clair, écrivain, François Thomas, historien du cinéma, Blutch, dessinateur, et Bruno Podalides, réalisateur. Recherche INA, Sandra Escamez. Extrait des films Mon oncle d'Amérique, La vie est un roman, On connaît la chanson, et Hiroshima mon amour. Mixage, Claude Niort. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. C'était Alain Resnais, Le Parti pris, une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin.
Heureux celui qui chaque jour
résiste.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Et samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au chanteur et peintre Mano Solo.